on avait quand même une belle croissance, c'est-à-dire que en 2018, on a lancé en octobre le module de paiement. Un an plus tard, quand on a levé des fonds, on avait déjà processé des millions de dollars pour des centaines et des centaines d'organismes.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 178e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et jeudis matin. Et en plus de Hypercroissance, sachez que l'équipe de J7 Media qui est derrière ce podcast produit également deux autres balados. Social Selling, un podcast 100% orienté publicité Facebook, et Commerce Elite, un podcast 100% orienté commerce électronique. Les liens sont d'ailleurs dans les notes de l'épisode si vous désirez jeter un petit coup d'œil. Également, si vous cherchez un partenaire de croissance pour vos campagnes numériques pour terminer l'année en force, rendez-vous au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, j7media@hypercroissance.com/hypercroissance afin d'obtenir gratuitement une analyse de vos campagnes actuelles ainsi qu'un plan de match personnalisé. Vous pouvez également venir discuter directement avec moi sur LinkedIn si c'est plus facile. J'ai un petit coup de cœur pour mon invité du jour. Vous le savez, sur le podcast Hypercroissance, on reçoit de plus en plus de chefs d'entreprise qui tentent de croître vite, mais également d'aider la communauté. Et vous allez le voir, l'invité du 178e épisode du podcast réussit ses deux missions à la perfection. François Desquerets, président et cofondateur de Zephy, un logiciel permettant aux organismes à but non lucratif de récolter des dons sans avoir à payer les frais de transactions bancaires, est avec nous aujourd'hui pour une discussion des plus fascinantes. Je le répète, si vous aviez mal entendu, littéralement zéro frais bancaires de transaction. Zephy absorbe tous les frais eux-mêmes. Maintenant, peut-être vous posez la question, mais comment arrive-t-il à faire de l'argent? Eh bien, je vous invite à écouter le podcast, car en plus de savoir comment générer des revenus, l'équipe de François a été capable d'attirer des investisseurs de renom en levant plusieurs millions de financements et en atteignant des centaines de milliers de dollars par mois en revenus. Sans plus attendre, ma discussion avec François Desquerets. François Desquerets, vous êtes le président et cofondateur de l'organisation Zephy, un logiciel de collecte de fonds à frais zéro pour les organismes à but non lucratif. Lancée en 2015, l'entreprise dessert au moment où on se parle plus de 5000 clients à travers le Canada et les États-Unis et a pu collecter plus de 8 millions de dollars de dons le mois dernier en septembre 2022. François Desquerets, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci, merci beaucoup de m'inviter.
Et François, afin de donner un petit peu plus de contexte à notre audience aujourd'hui qui nous écoute, est-ce possible pour toi d'expliquer plus précisément qu'est-ce que fait Zephy?
Et avec plaisir. Donc, Zephy, c'est une plateforme de collecte de dons pour les OBNL. Le contexte, c'est un donateur. Donc, toi, Antoine, si tu donnes 100 dollars, ce que tu vas faire souvent, c'est que tu vas demander à, disons, une banque alimentaire, tu leur donnes 100 dollars, tu vas demander comment ils utilisent les 100 dollars. Sauf que, avant Zephy, les organismes, ils sont obligés de dire, bah, écoute, il y a, sur 100, il y a 3, voire 5, voire peut-être 10 dollars qui partent en frais de plateforme. Mmh. Et donc, cette pression et ces frais sur les collectes de fonds, ça fait, bah, soit pour les organismes qui ont une plateforme, des dons perdus, soit ça empêche même des organismes de s'équiper et d'avoir une solution pour accepter les dons en ligne. Mmh. Donc nous, notre plateforme Zephy, dans Zephy, le jeu de mots, c'est zéro fee. Ça fait que quand tu donnes 100 dollars, l'organisme, la banque alimentaire, elle reçoit 100 dollars. C'est vraiment ça l'avantage. Et puis après, plus concrètement, comment ça marche? T'es un organisme, tu crées ton compte, tu vois, un peu comme un Shopify. Et puis, tu lances tes campagnes de dons. Il y a aussi les billetteries pour les événements, les 5 à 7, les galas, les adhésions, tout pour recevoir et collecter des fonds en ligne. Et après, nous, on est financé par contribution volontaire. Donc, toujours les 100 dollars. Tu donnes 100 dollars. L'organisme reçoit 100 dollars. Et toi, tu peux ajouter ce que tu veux pour financer Zephy. Et c'est exclusivement ça qui nous finance.
Et bon, et ça, je pense qu'il faut s'arrêter un instant ici parce que c'est assez fantastique. Donc là, peut-être les gens se posent la question, mais comment faites-vous pour ne pas avoir à payer de frais bancaires? Ben soyons honnêtes, là, vous absorbez les frais bancaires. C'est Zephy qui vont payer tous ces différents frais-là que des plateformes qu'on pourrait dire comme Stripe ou PayPal ou peut-être même des organismes de cartes de crédit vont débiter. Vous allez absorber le tout, là.
Oui, exactement. Donc, nous, en moyenne, sur 3 dons, il y en a 2 où les personnes mettent des contributions volontaires qui permettent de couvrir les frais de Stripe. C'est environ 2,5%. Ouais. Mais il y en a un qui va mettre zéro. Donc, on va perdre de l'argent une fois sur trois. Mmh. Aujourd'hui, on a beaucoup de volume, donc ça se moyenne et on n'a pas des mauvaises journées. Mais quand on commençait, parfois, à la fin de la journée, on avait perdu $100. On se disait, mais chut. Ouais. On a toute une journée, on a juste perdu de l'argent. Ça faisait un peu peur, mais en moyenne, les personnes sont vraiment hyper généreuses avec Zephy et ça nous permet de payer Stripe et de faire grandir la compagnie.
Ah, c'est ça qui est fantastique ici, c'est de bien comprendre, c'est ce qu'on appelle en anglais, c'est unit economics, qui nous dit que 67% des gens ici sont prêts à donner des dons par la suite à votre organisation, qui fait bien entendu vivre l'organisation. Mais c'est quand même assez formidable pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui de penser que des organisations comme ça, des fois, on peut se dire comment qu'elles font de l'argent. Ben, il y a des manières de trouver de la profitabilité pour la fin de la journée. Il ne suffit que d'être créatif. Et parlant d'être créatif, revenons un petit peu à la base de tout ça, à la fondation de l'organisation. Et je pense que, tranquillement, ton aventure au Québec, ça a commencé en 2014 avec tes études à la Polytechnique. Et c'est à partir de là, par la suite, que Zephy, et même avant, Simplique a été fondée. Mais peux-tu nous ramener à ton arrivée au Canada, le temps de tes études à la Polytechnique?
Oui, tout à fait. En fait, au tout début, j'arrivais pour faire ce qui m'a fait venir à Montréal. C'était une maîtrise recherche qui était, la raison, c'est que c'était financé. Puis moi, je croyais que j'allais adorer la recherche. La vérité, c'est que j'ai vraiment pas aimé du tout la recherche. Je pense sûrement que ça doit être quelque chose d'entrepreneur. La recherche, c'est très dans le détail. Entrepreneur, il y a un petit côté, tu fonces et il faut que ça avance. Mais en fait, c'est même pas tant ça qui a fait fonder l'entreprise. C'est-à-dire qu'en arrivant, une des choses que je voulais faire à Montréal, c'était faire du bénévolat. Souvent, quand on change de ville, tu sais, on a des bonnes résolutions. Moi, je me disais, OK, j'ai 22 ans. J'ai de la chance dans la vie. Je vais faire du bénévolat parce que j'en ai presque pas fait avant et c'est le temps de me rendre utile. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé ça en fait difficile de savoir quels étaient les besoins dans la communauté, de savoir à qui je pouvais aider avec mon temps et mon emploi du temps et le lieu où j'étais vers la Polytechnique là sur la montagne, qui m'a fait lancer une première version.
Mmh, et cette première version, c'est Simplique ici parce que à la base, Zephy n'était pas une organisation de collecte de fonds. Ça implique, de ce que je comprends bien, j'imagine que tu vas nous en parler, c'était pour mettre ensemble des gens comme toi qui cherchent à faire du bénévolat et des organismes de bénévolat. Donc, comment tout ça s'est créé, ça implique? Parce que quand même, c'est beau avoir l'idée, mais il faut un certain background technique pour créer le tout.
Ouais, c'est ça. Donc, à ce moment-là, il y avait juste le but de se dire, bon, faciliter le bénévolat. Moi, je connaissais rien à l'entrepreneuriat. J'écoutais d'ailleurs énormément de podcasts à cette époque-là d'entrepreneuriat. J'écoutais beaucoup, tu poses la question plus tard, mais j'écoutais beaucoup Coup d'État, ça s'appelait, en 2014, de Oussama Hamar. Surtout, à ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer Thibaut Giroux, qui est devenu le CTO et le cofondateur. À l'époque, c'était juste un ami d'amis à la Polytechnique qui a dit « Ouais, je sais faire des sites web, moi j'ai envie de faire des choses utiles, alors je vais faire cette plateforme pour faciliter le bénévolat avec toi ». Moi, j'étais « Ah, OK, on faisait notre maîtrise en parallèle. » Donc, on a eu cette idée de faire comme un Airbnb du bénévolat. Tu vois, tu peux voir sur une carte près de chez toi tout ce que tu peux faire. Et petit à petit, on a parlé à des organismes. On a fait les accélérateurs étudiants. Tu vois, on est allé à District 3 ou à Innovink, l'accélérateur de Polytechnique Montréal. Ouais. Petit à petit, ce qui pour nous était complètement fou, l'idée de lancer une start-up ou une entreprise, bien, c'est devenu de plus en plus réel. On s'est mis à croire que l'idée était peut-être pas si débile, que ça pouvait servir. Et donc, on est allé rencontrer des organismes. Et un des moments clés de cette première vie de Simplique, donc Simplique, il y avait un petit jeu de mots, tu t'impliques, il s'implique, on a beaucoup de jeux de mots. Je suis allé rencontrer un organisme qui s'appelle Outremont en famille.
Okay.
Et qui m'a dit, ouais, recruter des bénévoles adultes, pourquoi pas. Mais moi, c'est surtout des jeunes du secondaire qui ont du bénévolat obligatoire. Qui viennent, tu devrais aller voir les écoles et voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Et en effet, je sais pas si tu connais, si tu as eu ça, toi, peut-être, quand tu étais au secondaire, des programmes où tu dois faire des heures de bénévolat. Bien dans sûr. Le programme international. Et donc ça, c'était quelque chose de vrai. Et moi, je suis allé rencontrer des écoles secondaires. Donc, je suis allé à Père Marquette, à Louis Riel, à Brébeuf, au pensionnat. Ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais 23 ans, donc je connaissais rien à l'entrepreneuriat. Mais le système scolaire québécois, je connaissais vraiment pas très bien non plus. Donc, tu me disais cégep, je disais, OK, c'est quoi le cégep? Et on est allé leur parler du projet de faciliter le bénévolat, de mettre en relation des personnes qui veulent faire du bénévolat et des organismes. Et eux, ça répondait à un très fort besoin, ces écoles. Ils nous ont dit, bah, on va même vous payer un frais annuel si vous nous faites une plateforme où on peut inscrire tous nos élèves et qu'ils trouvent du bénévolat et qu'on puisse traquer tout ça.
Intéressant. Puis, premier projet, je pense que c'est ici que ça vous fait réaliser beaucoup de choses parce que là, vous lancez ça. Je pense que ça prend quand même bien de ce que j'ai été capable de lire rapidement. Il y a des centaines de personnes qui se connectent chaque jour pour essayer de trouver certaines mission reliée au bénévolat. Et vous, de votre côté, encore une fois, en faisant mes lectures, je me rends compte que de votre côté, vous vous rendez compte qu'il y a certains soucis avec ces organismes-là quand ils veulent peut-être aller chercher de l'argent ou collecter des fonds. C'est à partir de là, je crois, que vous avez eu une certaine réalisation par rapport à Simplique.
Alors, c'est sûr que la réalisation en travaillant avec des organismes, bah même tu, les accélérateurs ils nous disaient, OK, vous allez charger, on a une idée de modèle d'affaires pour vous, vous allez charger 10 $ aux organismes, c'est rien pour eux. Ils ont recruté des bénévoles. Nous, on allait voir des organismes, on leur disait, OK, 10 $ par mois. Ils disaient, allez, ciao.
Oh wow.
On veut pas payer parce que ça se comprend. Ils ont une telle pression sur leurs dépenses. Ils veulent pas ajouter des dépenses. Et donc ça, c'était quelque chose qui tournait dans le back burner. Et en fait, ce qui nous a fait passer à vraiment se concentrer sur les paiements, c'est surtout le moment où on s'est rendu compte qu'on pouvait pas croître notre impact sur le bénévolat. Donc, il y a un moment où on a travaillé avec des premières écoles secondaires, puis plus, et on est allé à travers le Québec voir toutes les écoles secondaires avec du bénévolat obligatoire. En fait, il y en avait 100 en tout et pour tout. Et nous, notre plateforme, ça coûtait, je sais pas, 3 000 à 5 000 $ par an. Et à un moment où, si tu fais le calcul, c'est pas un très gros marché, tu plafonnes très vite. Et niveau ambition et ce qu'on voulait faire pour aider les organismes, on arrivait au moment où on pouvait plus vraiment faire croître cette plateforme de mise en relation entre bénévoles et organismes. On allait faire une petite entreprise de peut-être 3-4 au Québec. C'était très dur de sortir des provinces parce que, bah, tu vois, quand ton marché est si petit, l'étendre à d'autres provinces, ben c'est pas évident. Et donc, c'est là qu'on a fait ce pivot pour les paiements. Donc, c'est un mix de, on savait que, ouais, peut-être d'un troisième élément, c'est on a entendu parler de cette idée de faire le modèle de contribution volontaire. Donc les trois en même temps, on s'est dit bon, lançons-nous sur les paiements.
Et je crois que du moment que cette idée-là vous vient, bon, il y a sûrement des itérations qui sont faites de votre côté, tester qu'est-ce qui prend le plus avec le marché. Et pour accélérer votre croissance, vous décidez de lever une première ronde de financement en 2019. Moi, la question que j'aurais pour toi, François, les investisseurs, quand tu leur dis, écoutez, on a un modèle qui va uniquement vivre avec des dons volontaires, des donateurs qui auront déjà donné une plateforme et on risque de croître l'organisation comme ça. Quelle est la réponse des investisseurs qui, au final, soyons honnêtes, veulent faire de l'argent, veulent avoir un retour avec leur investissement?
Ouais, surtout au moment où ils réalisent que, attends, mais si un jour t'as pas de contribution volontaire, tu perds de l'argent et ils voient des organismes négatifs. Et ils voient la liste des clients, ils disent, ah, mais eux, vous avez juste perdu de l'argent. Et là, bah, ouais, eux, on a perdu de l'argent. C'est sûr que c'est pas le plus encourageant. Et en plus, ils nous disaient, je me souviens très bien, ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe en crise économique? Et même, ils ont dit, et s'il y a une pandémie? Moi, j'étais allé arrêter de, ça existe pas, les pandémies. Tu sais, les gens vont arrêter de vous donner de l'argent. Non, bah, il se trouve que on avait quand même une belle croissance, c'est-à-dire que en 2018, on a lancé en octobre le module de paiement. Un an plus tard, quand on a levé des fonds, on avait déjà processé des millions de dollars pour des centaines et des centaines d'organismes. Peut-être aussi parce qu'on avait déjà l'expérience du bénévolat et le réseau, mais on avait vraiment une belle courbe de croissance. Donc, ça leur faisait peur, mais la croissance les a convaincus. Et peut-être ce qui leur faisait plus peur, c'était l'équipe de fondateurs parce que, on n'avait pas fait grand chose avant. Et donc, ouais, c'est ça. Je pense qu'ils nous ont plus challengé sur l'équipe de cofondateurs. Et il y a quelques personnes qui nous ont un peu servi de référence avec qui on avait travaillé pendant les années de Simplique qui ont vraiment eu un gros impact à appuyer notre crédibilité.
Ouais, ben peut-être j'aimerais juste revenir. Donc en 2018, quand vous lancez, et peut-être je suis allé un peu trop vite ici, ou est-ce que je t'ai déjà posé des questions sur le financement, mais je reviendrai dans ce cas-là à la fondation, ou du moins à la fondation du volet collecte de fonds de Simplique avant que vous deveniez Zephy. Rapidement, les résultats se sont fait sentir. Vous avez été capable d'amener des organismes à but non lucratif assez facilement dans votre plateforme et les donateurs étaient généreux. Comment tout ça a pris?
Ouais, c'est en fait en 2018, en octobre, quand on a fait le pivot, là, on est parti en chalet avec Thibaut. On s'est dit, bon, tu sais, on était un peu fatigué quand même. Ça faisait déjà 2 ans qu'on faisait la première business de bénévolat, on s'est dit, bon, si on récolte 50 000 dollars jusqu'à Noël, on continue. Et on s'est laissé 2 mois. Thibaut, il a sorti la plateforme en 3 semaines et très fort. Et là, on a écrit à tous nos organismes qui avaient des opportunités de bénévolat sur Simplique et on leur a dit, don à zéro frais, est-ce que t'es partant? On les a tous appelés et il y en a eu quelques-uns par-ci par-là. Et surtout, il y en a eu un, c'était Cyclo Nord-Sud. C'est un super organisme qui, il récupère des vélos, il les envoie il réinsère des personnes par les vélos. Et eux, ils ont fait une campagne pour 20 000 dollars. Ils étaient super contents de la plateforme. Il se trouve qu'il y avait eu plein de contributions volontaires. Donc, on avait fait un peu d'argent sur cette campagne. On s'est dit, bon, bah, go. Et après ça, vraiment, il y a eu beaucoup de bouche à oreille. Et dès la première année, c'est allé très vite. Et pour avoir vécu 2 années où ça allait pas très vite, le moment où on faisait quelque chose vraiment utile, on a vu la différence de bouche à oreille, de ils aiment ce qu'on fait et de ça accélère.
Wow.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique en 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance depuis le début de l'année? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanal à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com /HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Et bon, tu fais la ronde de financement en 2019, on s'en va chercher du capital et par la suite, comment qu'on est capable d'aller accélérer un peu? Parce que c'est beau le bouche-oreille avec des organismes québécois, on l'entend, mais tout de même, vous êtes rendu aux États-Unis, vous avez processé 8 millions au mois de septembre 2022 de dons. Ça veut dire que des entreprises un petit peu partout, surtout en Amérique, qui vous connaissent. Comment vous l'avez fait découvrir, cette business-là?
Ouais, alors comment on l'a fait découvrir aujourd'hui, c'est vraiment différent de avant, mais il y a toujours eu un peu de trois canaux. Aujourd'hui, c'est Google Ads. Donc, on a déjà une équipe marketing très forte, mais aussi, je pense qu'on répond à une recherche. Les gens cherchent des plateformes de collecte de fonds pas chères et donc ils font les comparaisons et souvent on gagne parce qu'on est les seuls à être gratuits. On a aussi du bouche. Et celui-là, avant, c'était pas Google Ads. Au début, c'était de la vente directe. On a essayé pas mal de choses. Donc, un canal comme ça. Ensuite, on a un gros canal de bouche à oreille d'organismes. C'est plus de la moitié. Ça, je pense que culturellement, il y a quelque chose dans notre équipe, que ce soit, je sais pas si c'est la mission ou les personnes, mais que ce soit en support ou les devs et en produits, il y a vraiment une sorte de passion d'essayer de faire une plateforme qui soit simple, que les organismes aiment bien et que ça réponde à leurs besoins. Et ça, on a toujours eu un NPS là qui est, je sais pas si tout le monde connaît le
mais fait sûr, que pour
le sondage qui était au-dessus de 80 et un très très gros bouche à oreille. Donc je pense historiquement, on a plutôt été un peu moins fort aux canaux comme sales, comme marketing, mais plutôt plus fort en bouche à oreille d'organismes. Même si bon, on se débrouille quand même en marketing. Et après le dernier, c'est un peu une sorte de botte secrète, mais tous les donateurs qui passent par la plateforme tous les jours. Que en ce moment, bah, c'est 8 millions par mois. Ça veut dire que c'est 80 000 donateurs qui passent par notre plateforme et ils voient notre marque. Et souvent, ils connaissent d'autres organismes. Donc, on a aussi un bouche-oreille qui vient des donateurs qui vont parler de nous à des organismes.
Wow. Et tu vois, d'ailleurs, on en parlait récemment dans un podcast avec Étienne Lacroix de Vention qui nous parlait du fameux concept du product-led growth. Donc, c'est le produit qui amène la croissance. Et lui, il avait amené une nouvelle nuance à ça. C'est le customer-led growth. Donc, le client qui amène de la croissance. C'est littéralement le cas ici. Ouais. Vos clients vous amènent de la croissance avec cette reconnaissance et ce bouche à oreille subséquent, là.
Exactement. C'est un peu comme le sent from my iPhone où les personnes le voient. Là, c'est, ils font leur don. Donc, nous, déjà, ils voient notre formulaire. Ils voient la page « Merci », elle est faite par Zephy, puis on raconte ce qu'on fait Zephy. Ils ont l'email de remerciement de Zephy après. Et donc, toutes ces personnes-là, qui en plus sont des donateurs, donc souvent, quand tu donnes à un organisme, bah, t'es plus une personne à même de connaître d'autres organismes. Donc ça, ça a un impact énorme pour notre croissance. Parce que c'est des centaines de milliers de personnes qui atterrissent sur nos formulaires chaque mois, en fait.
Wow, assez fantastique tout ça. Et bon, tu avais peut-être des investisseurs qui avaient des doutes s'il allait avoir une pandémie, s'il allait avoir une crise économique. Mais bon, il y a quelques mois de ça, vous avez fait une nouvelle ronde de financement et là, vous avez levé près de 4 millions de dollars, donc 3,7 millions plus exactement. Question pour toi, à quel point l'attitude des investisseurs avait changé depuis ces dernières années, où est-ce que vous avez bien entendu grandi l'organisation? Vous la triplez même chaque année, je crois bien.
Oui, c'est ça. On avait encore une bonne croissance quand on a levé ça. On avait fait plus que tripler, je pense, l'année d'avant. Là, on triple de 2021 à 2022. Et il y a eu quand même beaucoup de... Ben, c'est sûr qu'on a encore eu cette question de qu'est-ce qui se passe. Mais là, on leur disait, bon, il y a une pandémie. Ça faisait quand même une bonne réponse. Il y a une pandémie, ça a tenu. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire? Bon, je croise les doigts qu'il n'y ait pas pire. C'est jamais en ce moment, mais... Mais ouais, c'est ça. Mais après, ils avaient aussi beaucoup de questions, notamment ils avaient l'objection de est-ce que c'est très copiable parce que bah, c'est une innovation de modèle d'affaires. Donc c'est vrai que finalement, n'importe qui est prêt à risquer de perdre de l'argent sur des dons pourrait lancer ce même modèle. C'est quelque chose à laquelle j'ai toujours pas une très bonne réponse quand on me demande d'ailleurs. Et il y avait aussi la peur de enlever des fonds pour lancer les États-Unis. Et d'ailleurs, ils avaient beaucoup la question de faire un plan très détaillé du lancement des États-Unis. Et nous, notre réponse n'était pas très bonne. On n'est pas très fort à faire des plans détaillés de lancement.
Vous exécutez.
Ouais, c'est ça, un peu. Mais... Et donc, on a lancé les États-Unis pendant la levée de fonds parce qu'on s'est dit, bon, ce sera plus simple de lancer les États-Unis que de faire un plan. Et alors, c'était pas si compliqué, ouais, c'était assez simple. Et là, on a eu des premiers organismes qui sont venus par le bouche à oreille. Et donc, ça les a convaincus.
C'est fantastique tout ça. Être capable d'aider des organismes à but non lucratif, de pousser par la suite, par extension, des gens à faire des donations pour des organismes plus simplement, parce que c'est quand même un argument aussi de se dire 100% de notre investissement va aller à cet organisme-là. Trouver une manière de faire de la profitabilité derrière, c'est un modèle qui est totalement sensationnel, François. Et j'aimerais parler peut-être un petit peu avec toi aujourd'hui de ressources humaines maintenant. Tu le dis, vous avez des valeurs qui sont fortes, une mission qui est bien comprise, j'imagine, de l'ensemble de votre organisation. On est dans un climat présentement au Québec, au Canada et même en Amérique du Nord où est-ce qu'on est dans une certaine pénurie de main-d'œuvre, c'est-à-dire que les talents sont plus difficiles à dénicher. Mais habituellement, les organisations qui ont des valeurs fortes, une mission qui est claire, arrivent à tout de même trouver du bon personnel. Quel a été l'impact de cette mission dans une recherche constante d'employés, surtout dans le climat dans lequel on vit?
Ouais, c'est vraiment une très bonne question. Alors, pour être honnête, c'est quand même dur de trouver, de recruter, surtout en IT ou même en marketing, c'est dur. C'est sûr qu'il y a vraiment des personnes pour qui ça fait la différence et qui nous disent avant ça, ils ont travaillé que dans des B Corp, donc entreprises à mission, ils viennent de Metrio, des Prana, et on voit vraiment qu'il y a une tranche de personnes pour qui c'est ça qui va faire la différence. Après, je pense aussi qu'on doit pas tous, enfin ça reste très dur de recruter, de trouver les bonnes personnes, les bons talents. Je pense comme tout entrepreneur, c'est je passe énormément de temps dans ma semaine.
Ouais, mais vous arrivez quand même à tirer votre épingle du jeu. Vous avez une belle équipe présentement chez Zephy, je crois bien.
Ouais, tout à fait. L'équipe est vraiment extraordinaire. Enfin, on a une densité de talents qui, je pense, est vraiment très très forte. Après, c'est ma première startup, mais ça fait quand même quelques années. Enfin, ça fait quasi 6 ans qu'on a lancé Zephy et Simplique. Et donc, à l'époque, peut-être, on savait pas très bien recruter au tout début, même s'il y avait aussi des bonnes personnes. Mais c'est sûr que on arrive à avoir des talents qui, je pense, sont d'un niveau incroyable et on arrive, je pense, à bien les garder parce que la mission. Et je pense qu'ils ont un ownership et une initiative qui est énorme. C'est-à-dire que tu demandes les livres préférés. Moi, il y a No Bulls Rules. Attends, je te le fais avec un accent. No Bulls Rules. Le livre de Netflix sur la culture et je sais pas si c'est la mission, mais on arrive très bien à donner de l'autonomie parce que tout le monde care qu'on fasse une bonne plateforme pour les organismes. Bon, après, on a aussi des défis de management, comme tout le monde. En tant que premier entrepreneur, on essaie de progresser, d'être des meilleurs managers, d'avoir une bonne culture, etc.
Intéressant tout ça. Puis bon, c'est une organisation qui, on le sait, doit demander beaucoup de capital parce qu'il y a des risques. Hein? Il y a des risques à ce que des gens ne donnent pas des donations derrière. Il y a des risques, bon, on les a énumérés quelques fois aujourd'hui, mais ça demande un certain capital pour lancer, pour entretenir cette organisation-là et bien entendu pour la faire croître. Quelle est la vision de croissance? Tout ça, est-ce que tu considères que cette organisation-là, pour continuer à aller chercher des parts de marché, vous allez devoir faire plusieurs rondes de financement? Est-ce que d'un autre côté, vous cherchez à aller avoir une profitabilité dans les prochains mois pour avoir une organisation qui est peut-être un petit peu plus sécuritaire? Quelle est la vision de l'organisation pour les prochains mois, pour les prochaines années?
Ouais, c'est une super bonne question, justement, en termes de à quel point c'est pas si cher que ça, la croissance pour nous, parce que à la fin, c'est du web, c'est une plateforme, il y a pas de gros coûts à part les serveurs. Donc, on se demande, a priori, on va lever une série A en début d'année 2023 pour continuer à pousser la croissance, etc. Mais on se demande, en fait, parce qu'on n'est pas très loin de la rentabilité, donc on n'a pas forcément un énorme besoin de capital. Je pense qu'on va quand même plutôt aller lever une série A pour aller plus vite. Et après, la question plutôt sur la vision et notamment le lien avec l'équipe, puisque c'est vraiment une vision très partagée, c'est une question que tous les employés demandent, c'est à long terme, nous, ce qu'on veut, c'est aider plus les organismes à avoir plus d'impact. En gros, les organismes, tous les jours, ils essaient de lutter contre le réchauffement climatique, les inégalités, ils sont là pour l'éducation. Et nous, on dit, si on peut les rendre juste un peu meilleurs, déjà, ce sera incroyable. Et donc, les autres objectifs que la commercialisation, où c'est plus poussé beaucoup sur les États-Unis, c'est vraiment niveau valeur. Donc aujourd'hui, c'est une plateforme juste pour faire du paiement en ligne. Il y a pas mal de choses qu'on est en train de rajouter, notamment que les organismes puissent communiquer mieux avec leurs donateurs. En gros, le CRM d'un OBNL, c'est Excel, souvent. Salesforce, c'est que pour peut-être la fondation de McGill qui a des gros CRM, etc. Mais les petits, en gros, ils sont sur Excel. Et donc, nous, on leur fait un tableau de bord où ils peuvent facilement envoyer des infolettres, segmenter, mettre des notes, des choses assez faciles. Hein. On n'est pas Salesforce, mais réengager les donateurs. Ça, c'est une partie du développement. Et l'autre, c'est aller vers les paiements hors ligne, puisque tu sais, tu peux taper sur un iPhone maintenant pour recevoir des dons. Et donc, on veut aussi aider les organismes pour que pendant leurs événements, ils puissent recevoir des dons. Pareil, toujours la même vision, que ce soit sans frais.
Donc, une plateforme qui tranquillement grandit autour de son persona, c'est-à-dire l'organisme à but non lucratif. On écoute ses besoins, on écoute ses problématiques et on essaye d'y donner quelques solutions selon, bien entendu, l'expertise que vous avez été capable de développer à l'interne. Ça ressemble un petit peu à ça, là, la structure de ce que je comprends.
Non, on est visionnaire. Ah non, maintenant, t'as raison, dit comme ça, ça résume. C'est très bien, c'est très bien dit. Ouais, en fait, on écoute pas mal, on essaie d'écouter leurs besoins autant que possible.
C'est fantastique. Je reviens à un point que tu as dit un petit peu plus tôt qui est assez intéressant, c'est les investisseurs vous posent la question, est-ce que les gens peuvent vous copier? J'imagine que la réponse est oui, on peut copier n'importe quoi dans la vie, mais au final, il y a une différence entre avoir envie de le copier et de faire littéralement et de prendre le risque de perdre des sous continuellement sur différentes transactions. Ça, c'est un autre type de risque que peut-être certaines personnes ne sont pas prêtes à prendre, que vous avez eu la responsabilité, quasiment on pourrait dire ça ainsi, de prendre cette décision.
Ouais, c'est ça. C'est la réponse à peu près que je donne, mais qui est un peu dérangeante, le fait de dire il faudrait, n'importe qui peut le faire, mais il faudrait être fou pour le faire. Ça rassure pas trop des investisseurs qui se disent, OK, donc personne le fait parce que il faut être un peu bête. Mais dis, c'est un peu ça. Et si tu regardes la compétition, par exemple, c'est aussi que nous, par exemple, c'est des contributions volontaires, mais eux, ils vont charger des frais qui sont pas mal au-dessus de nos contributions volontaires. Donc, ils sont structurés autour de frais plus hauts avec peut-être plus de sales.
Bien sûr.
Et donc, en fait, couper leur marge comme ça, ce serait assez dangereux. Enfin, je pense qu'ils ne le feraient que quand on sera très gros.
Et parle-nous un petit peu des modèles d'affaires de tes compétiteurs. Donc, habituellement, c'est des paiements mensuels pour utiliser une plateforme, un petit peu comme un software as a services, un SaaS, là, le terme qu'on utilise pour des logiciels web.
Ouais, alors un des défis qu'on a, c'est que tous les compétiteurs disent qu'ils sont gratuits. Alors, okay. Je t'explique l'histoire. Donc, il y a des frais mensuels. Ça, ils en ont pas tous. Même, c'est assez rare.
OK.
Tu vois, où ça peut être où c'est des plans. T'as un plan gratuit, souvent, un plan à $50, etc. Après, t'as des frais bancaires. ou ça, ils en ont tous. Donc ça, typiquement, ils chargent 2,9% plus 30 centimes.
Bien sûr.
Ce qui, ils disent que c'est les prêts de Stripe, même si souvent ils prennent des marges parce que eux, tu vois, ils payent moins que le tarif d'entrée. Et ensuite, il y a les frais de plateforme qui sont de 1 à 5%. Et donc, c'est quand même beaucoup. Et ce que je trouve difficile, c'est que dans les compétiteurs, ceux qui prennent juste une commission, par exemple, de 7%, ils mettent partout gratuit. Ils disent, on est gratuit, on prend juste 7% sur tes dons. Mais moi, ça me rend fou parce que pour moi, c'est pas être gratuit de prendre 7% sur les dons. Et donc, on doit se battre pour que les organismes réalisent que bah, quand on dit qu'on est gratuit, nous, on est vraiment gratuit, alors que les autres sont gratuits, alors qu'ils chargent au moins le moins cher, 2,9% plus 30 centimes.
Intéressant. Je penserais peut-être, François, des petites questions personnelles. On a parlé podcast, on a parlé livre, mais j'essaie de te poser la question plus officiellement. Tu es entrepreneur depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que les lectures d'affaires, de parler de No Rules Rules, est-ce que tu en aurais d'autres qui te viennent en tête, qui pourraient impacter notre audience aujourd'hui qui recherche toujours les lectures à mettre dans la table de chevet juste avant d'aller se coucher?
Ouais. Moi, il y en a un qui m'a vraiment... Il a vraiment délivré le bonheur qu'il m'a promis, c'est Traction. Je sais pas si tu...
Il est juste derrière moi.
Okay. Au début, l'auteur dit « Vous êtes un entrepreneur fatigué qui ne gère pas, qui ne sait pas bien, qui met sa main partout dans sa business et qui n'y arrive pas. Vous allez être heureux dans 6 mois. » Franchement, ça m'a un peu fait ça. Je trouve que c'est tellement applicable, les recettes. J'avais du mal à lire les livres un peu trop avancés comme Measure What Matters sur les OKR ou High Outcome Management. C'était trop compliqué pour moi, mais Traction, j'ai trouvé ça incroyable.
C'est une structure vraiment... Bon, facile, le terme est fort, là, mais c'est une structure qui est bien expliquée pour mettre en place par la suite dans son organisation avec nos plans de 90 jours, les métriques qu'on a à suivre, comment bien soutenir notre équipe. Il y a aussi beaucoup d'entraînement dans le monde avec des experts de cette méthode-là qui sont capables d'aller enseigner. Donc, les gens qui n'ont pas encore lu Traction et qui cherchent un meilleur modus operandi pour gérer leur organisation, allez jeter un petit coup d'œil. Bon, podcast, te parler de coup d'État tout à l'heure, bon, où sa maman est plus autant présent qu'avant dans le paysage médiatique pour plusieurs raisons un petit peu spéciales. Est-ce qu'il y a d'autres podcasts que tu écoutes un peu qui impactent ta routine?
En fait, en business, pas tant que ça. J'écoute un peu Saster. Je sais pas si tu vois sur le SaaS, mais j'ai du mal à bien suivre. Bon, définitivement, j'ai vu tous les invités de Hypercroissance. Là, je vais me les faire. Je les écoute. En plus, je cours beaucoup. J'écoute des podcasts en courant, donc il y a beaucoup de place. Et moi, j'écoute un podcast d'humoriste en ce moment. Ça s'appelle 4 comiques dans le vent. Dans mon équipe, ils vont se foutre de ma gueule parce que j'en parle tout le temps. D'ailleurs, c'est Anthony, c'est des humoristes français, mais le dernier, c'est Anthony Cavana qui est invité. Et moi, je trouve ça vraiment drôle. Et dans ma journée, tu sais, dans ma vie d'entrepreneur, j'essaie d'être plutôt positif. Et donc, ça m'aide. J'aime beaucoup. Donc, je recommande. Mais c'est pas tant de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai peur que ça touche. Je trouve pas la bonne audience.
Et bon, et si on termine, tu le disais, tu cours beaucoup. À quoi ressemble la routine avant, pendant et après le travail de François Desquerets?
Ouais, alors idéalement, je me lève, je fais de la méditation, mais souvent, en fait, j'en fais pas du tout. Je prends juste rapidement un déjeuner. Je pense que je vais au travail à vélo, été comme hiver, et c'est le moment où j'essaie de me rappeler quelques petits mantras, d'essayer de rester positif et d'être bienveillant et d'essayer de faire des blagues dans la journée parce que bah, c'est super dur d'être entrepreneur, mais aussi de travailler dans une équipe, dans une startup. Les employés travaillent vraiment plus dur qu'ailleurs. C'est vraiment des grosses responsabilités. Donc, d'ailleurs, je vais leur partager, je leur redis, ils sont vraiment extraordinaires, les employés de Zéphine. Mais donc, j'essaie d'amener de la légèreté et de me rappeler ça le matin. Donc ça, c'est routine du matin. Après la journée, je bois juste plein de café et on fait une grande pause d'une heure à Zéphi. C'est quasi obligatoire, une heure de pause à midi pour souffler. Et non, le soir, je pense que j'ai une routine. Je ne devrais pas le dire si je vais envoyer à ma mère, mais après une longue journée, je fume une demi-cigarette le soir pour décompresser un peu. Voilà, ça ressemble à ça.
Fantastique, j'adore l'honnêteté, François. Bon, écoute, vous êtes une entreprise en forte croissance. où est-ce que les gens peuvent en apprendre un petit peu plus sur vous? Peut-être que vous recherchez des nouveaux clients qui pourraient utiliser votre logiciel. Peut-être qu'il y a des organismes à but non lucratif qui nous écoutent aujourd'hui. Peut-être que vous avez des postes ouverts. Donc, je serais curieux d'entendre où est-ce que c'est le plus facile d'en apprendre plus sur Zephy.
Alors, franchement, sur zephy.com, c'est là qu'il y a tout. Il y a la page talent. On recrute en dev, marketing, sales, support. Je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Puis, des nouveaux organismes, on en recrute. Ils sont toujours les bienvenus.
Autant au Canada qu'aux États-Unis et en Europe aussi, ou pas encore en Europe?
En Europe, ils sont pas encore les bienvenus. Ils peuvent aller nous suivre sur LinkedIn ou faire quelque chose comme ça, mais ils doivent patienter. Mais ouais, Québec, Canada, États-Unis, ouais, tout à fait.
Fantastique. François Desquerets, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. C'est une entreprise, une organisation fantastique que toi et ton équipe avez été capable de bâtir. Je pense que des organismes qui peuvent avoir autant d'impact social tout en ayant une quête de profitabilité, c'est tout à votre honneur et c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur le podcast. Merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, ce serait très apprécié si vous pouviez partager le podcast sur les médias sociaux afin de faire connaître le balado à un maximum de gens d'affaires possible. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.